VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale, la procureure de la Cour pénale internationale en visite en République centrafricaine. Arrivée mardi soir à Bangui, Fatou Bensouda a mis l'accent hier sur le rôle qu'aura à jouer la Cour pénale spéciale, une nouvelle juridiction chargée d'enquêter sur les violations graves des droits humains commises en RCA depuis 2003. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
La Cour pénale internationale a ouvert un nouveau dossier sur la République centrafricaine. Elle enquête depuis septembre 2014 sur des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans le contexte de la recrudescence des violences dans le pays à partir de 2012. La procureure de la Cour pénale internationale est dans la capitale centrafricaine pour appuyer la mise en place de la Cour pénale spéciale, une juridiction qui devra elle aussi juger les crimes graves commis dans le pays. Fatou Bensouda a assisté à l'ouverture de la formation des membres de la Cour pénale spéciale.
C'est un honneur pour moi d'avoir été convié à l'ouverture de la toute première formation à Bangui à l'intention des magistrats de la Cour pénale spéciale. Cette Cour est dotée d'un mandat complémentaire à celle de la Cour pénale internationale. Avec les juridictions ordinaires centrafricaines, nous allons résolument poursuivre nos actions contre l'impunité des crimes graves commis en Centrafrique.
La procureure de la CPI restera 3 jours à Bangui et devra aussi s'entretenir avec les autorités centrafricaines. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Mali, le Premier ministre Soumeilou Boubey Maïga a entamé ce jeudi une visite dans le nord et le centre du pays qui doit le mener à Kidal, ville sous contrôle de la CMA, l'ex-rébellion Touareg. M. Maïga est arrivé à Tessalide, dans le nord-est, près de la frontière algérienne, avec une délégation comprenant 8 ministres. Il doit en principe se rendre ensuite à Kidal, où une attaque jeudi matin contre le camp de la mission de l'ONU et de la force française Barkhane a fait 5 blessés légers parmi les militaires français, selon l'état-major des armées à Paris, ainsi que des dégâts matériels. L'état malien est pratiquement absent de Kidal depuis des combats en mai 2014, pendant une visite du premier ministre malien de l'époque, Moussa Mara, des affrontements qui s'étaient soldés par une lourde défaite de l'armée malienne face aux rebelles. Soumeilou Boubey Maïga doit ensuite se rendre à Gao et Tombouctou, également dans le nord du pays, ainsi que dans plusieurs localités du centre du Mali. Les violences intercommunautaires se multiplient d'ailleurs depuis 2 ans dans le centre du pays. Au moins 8 personnes ont péri dimanche et lundi dans des affrontements entre peuls traditionnellement éleveurs et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquement majoritairement l'agriculture. Des conflits souvent liés à l'eau ou au foncier. De Bamako, le reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
Douanza, Tenenkou, Youarou et récemment Koro sont des localités dans la région de Mopti. Gabriel Tienou, enseignant.
Cette guerre intercommunautaire entre Peul et Dogon. On se rappelle à un moment donné que c'était entre les Peul, d'autres diront que c'était des djihadistes qui étaient en conflit ouvert avec les Dosso, les Sasser. Avec l'invasion des régions nord du Mali, il y avait quand même l'implantation de cette idéologie djihadiste qui prône la violence et les désordre.
Sur le terrain, les communautés s'attellent à la sensibilisation. Ibrahim Diko, président de l'Union nationale des jeunes Peuls.
Tout Peul n'est pas djihadiste, tout Dogon n'est pas Rougeau. Tellement des milices qui sont là sur le terrain, qui possèdent des armes de guerre, sont prêts à s'enrichir du jour au lendemain. Ils sont là, ils tuent les Peuls, prennent les troupeaux et maintenant aller tuer quelques Dogon, c'est les Peuls qui ont tué. Donc chacun se soulève, on s'enrichit et profite de cette guerre-là. Donc ça n'arrange personne. Donc soyons très vigilants, soyons très solidaires, très soudés et non à la.
Dans la zone de Koro, la tension est toujours vive. Avec les Donso, c'est-à-dire les chasseurs traditionnels, ceux-ci parlent de défendre leur village.
Vraiment, cette guerre intercommunautaire n'est pas la bienvenue, vu l'association de notre pays. Ce sont des voisins qui cohabitent ensemble. Cette guerre, vraiment, n'a pas sa raison d'être. Je pense que le gouvernement doit réunir toutes ses forces afin de pouvoir parler entre eux et trouver une solution rapide.
Réunis à Bamako, les ressortissants de Tenenkou prouve que leur cas est singulier. Timouré Tchoulenta, porte-parole des ressortissants de Tenoku.
Ces populations seront soumises à des exactions et des percussions continues, à la rigueur de nouvelles réglementations dans le domaine religieux et en matière de comportement social. Tout cela couronné par des enlèvements aussi emblématiques que spectaculaires, des massacres retentissants et des meurtres massifs. Vous comprenez que 27 enlèvements dans la même logique, voire plus que temps de mettre fin aux souffrances des populations.
En plus de la sensibilisation des communautés, l'État veut déployer des militaires sur le terrain. Sidi Alassane Touré, gouverneur de la région de Mopti.
La défense du territoire, des personnes et de leurs biens, revient à l'armée nationale. Aujourd'hui, nous sommes dans un État très responsable et cet État ne veut pas de milices où des gens s'organisent et disent qu'ils vont défendre leur communauté. Ça va nous amener très loin. Seule l'armée doit justement détenir l'arme. C'est pas les communautés qui doivent s'organiser pour dire qu'elles vont assurer leur propre défense.
La situation reste tendue sur le terrain. Une visite du Premier ministre est attendue à Koro ce week-end. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Nigeria, tous les pensionnats dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, vont être fermés jusqu'à nouvel ordre pour raisons de sécurité, ont annoncé ce jeudi les autorités de cet état. À la frontière avec le Cameroun et le lac Tchad, l'état de Borno est considéré comme l'épicentre des violences commises par les islamistes de Boko Haram, dont le nom signifie en langue Hausa, l'éducation occidentale est un péché. Cette mesure intervient alors que les djihadistes viennent de ramener une centaine de jeunes filles kidnappées en février à Dapchi, ville de l'état voisin de Yobe. Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 dans le pays continue ce jeudi à Ouagadougou en présence des principaux accusés, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. La séance ouverte ce matin a été suspendue par la suite pour des questions de procédure. On s'attend à ce que le procès reprenne plus tard aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, les forces de l'ordre ont empêché ce jeudi à Abidjan une manifestation de l'opposition et arrêté un de ses porte-parole, Jean-Gervais Tchéidé, interpellé alors qu'il donnait une interview à des journalistes. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, avait appelé à une marche pour protester contre la commission électorale indépendante, accusée par l'opposition d'être déséquilibrée en faveur du pouvoir, et aussi pour protester contre la tenue d'élections sénatoriales samedi. EDS est une coalition qui regroupe des partis politiques, des associations de la société civile et le Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a appelé les électeurs à participer massivement à l'élection présidentielle de la semaine prochaine. Il fera face à un seul candidat qui est aussi un de ses fervents partisans, Abdourahmane Dia.
C'est un scrutin qui se déroulera sur trois jours, les 26, 27 et 28 mars. Abdel Fattah al-Sissi brigue un deuxième mandat de 4 ans. Ancien chef de l'armée, il a été élu en 2014, un an après avoir renversé le président islamiste Mohamed Morsi. Plusieurs autres prétendants à la présidence ont été écartés. L'ancien chef d'état-major Sami Anan a été interpellé peu après avoir annoncé sa candidature. L'ex-premier ministre Ahmed Shafik, à son retour d'exil, a été gardé dans un hôtel jusqu'à ce qu'il retire sa candidature. Le président Sisi estime que l'absence de concurrent sérieux n'était pas de sa responsabilité. Son seul rival, Moussa Mustapha Moussa, a battu campagne pour lui avant de se lancer dans la course le 29 janvier dernier. D'ailleurs, il avoue que c'est pour éviter à M. Sisi d'avoir à se présenter seul dans un scrutin aux allures de référendum.
En France, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, mis en examen dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne électorale de 2007, a affirmé qu'il vivait l'enfer de la calomnie, selon sa déclaration au magistrat, reproduite aujourd'hui sur le site internet du journal Le Figaro. Jacques Aristide nous en dit plus.
« Depuis le 11 mars 2011, je vis l'enfer de cette calomnie », a déclaré M. Sarkozy, qui dénonce également l'absence de preuves matérielles dans les accusations portées contre lui. L'ancien chef de l'État français, 63 ans, a été inculpé hier soir pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens, ce qui marque un coup d'accélérateur dans cette affaire instruite par des magistrats français depuis près de 5 ans. Les faits dont on me suspecte sont graves. j'en ai conscience. Mais si, comme je ne cesse de le proclamer avec la plus totale constance et la plus grande énergie, si c'est une manipulation du dictateur Kadhafi ou de sa bande ou de ses affidés, alors je demande aux magistrats de mesurer la profondeur, la gravité, la violence de l'injustice qui me serait faite, a conclu l'ancien président français.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.